Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Le Yémen est un pays largement méconnu, ou pas assez connu en tout cas, et pourtant, c'est l'un des quatre pays où on a parlé de printemps arabe, un des quatre pays où ce printemps arabe avait débouché sur le départ d'un président. Après 34 ans au pouvoir, le président Ali Abdallah Saleh a été déchu par le processus révolutionnaire de 2011. Un gouvernement de transition s'est alors mis en place sous la houlette d'un président de transition, mais dans un pays encore jeune, né donc de la réunion de deux républiques, les tensions sont restées nombreuses. Et puis, en effet, depuis l'été 2014, à nouveau, des rebelles houthistes chiites ont pris la capitale Sanaa et menacent le gouvernement en place. Et le jeudi 26 mars dernier, en réponse à cette rébellion houthie, l'opération Tempête décisive a été lancée à l'initiative de l'Arabie Saoudite, alors que les rebelles chiites ont été sommés mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU de se retirer, je cite, immédiatement et sans condition. Le conflit se durcit, 650 personnes, c'est un chiffre peut-être encore approximatif, auraient été tuées selon le dernier bilan de l'OMS, et sans doute beaucoup plus. Alors dans ce conflit qui oppose une coalition sunnite aux rebelles chiites, l'analyse confessionnelle est-elle toujours et pour autant pertinente? L'Arabie Saoudite voit-elle dans cette guerre le moyen d'asseoir un peu plus son monopole régional? Est-ce une guerre aussi par procuration contre l'ennemi iranien? Ce sont autant de questions que nous poserons de cette première partie des matins à notre invité Laurent Bonnefoy. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, grand spécialiste de la question. On vous consulte très souvent sur ces questions-là, chargé de recherche au Syrie. Alors, conséquence de cette guerre, et comme tant d'autres dans la région, le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, se prépare à aider et à accueillir au cours des 6 prochains mois jusqu'à 30 000 nouveaux réfugiés à Djibouti et 100 000 par exemple en Somalie, des réfugiés qui viennent s'ajouter à la longue liste des nationalités qui tendent d'atteindre les côtes européennes. Et puis vous le savez que depuis hier, le Sénat français examine un projet de loi relatif au droit d'asile adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en décembre. Mais les débats font rage parce qu'ils sont désormais alimentés par un rapport de la Cour des comptes dont le Figaro publiait des extraits hier, en début de semaine. La politique d'asile y est jugée, je cite le rapport de la Cour des comptes, au bord de l'embolie, insoutenable à court terme et au coût financier insupportable. Alors quelle est l'ampleur des changements apportés par ce projet de loi qui sans doute risque d'être ajourné pour l'instant? Audition de la Cour des comptes peut-être oblige au Sénat. Faut-il sortir de cette logique comptable? Autant de questions là aussi que nous aborderons en deuxième partie, mais vous pourrez très bien vous mêler aussi à la discussion sur le Yémen. François Sureau, bonjour.
Bonjour.
Faut-il vous présenter? Écrivain, avocat, ancien membre du Conseil d'État et un des animateurs fondateurs avec votre femme de l'association Pierre Claver, hein, qui met à la disposition des demandeurs d'asile de nombreux services, et comme celui notamment d'avocat ou encore d'apprentissage de la langue. On commence par le Yémen, tout de même, peut-être faut-il dire aujourd'hui qu'on va emprunter le chemin des morts.
C'est l'occasion de dire une chose quand même, qui est qu'à chaque fois qu'on parle d'un conflit dans une zone, on a l'impression, parce qu'on est terriblement européocentré, qu'il va en résulter nécessairement un flux de pauvres ER débarquant en harde sur nos côtes et posant des problèmes. C'est tout à fait inexact. Hein. D'après le HCR, il y a 55 millions de personnes déplacées par fait de guerre dans le monde. Je rappelle que sur ces 55 millions, seuls 1,5 million trouve asile sur le territoire de l'Union européenne, qui fait 700 millions d'habitants. Donc, en réalité, quand il y a une guerre dans le monde, ce sont toujours les pays limitrophes, vous l'avez dit à propos de Djibouti, de la Somalie, etc. C'est toujours les pays limitrophes qui payent le prix humain et politique, et ça n'est pas nous. Nous sommes rentrés dans une telle logique à la fois compassionnelle et craintive, au total assez méprisable sur le plan moral, que à chaque fois qu'il y a un conflit, on imagine le camp des saints de Jean Raspail. C'est des blagues. Ce sont des blagues.
Alors ce sont des blagues, et c'est pourtant pas ce qu'on entend en général dans la bouche des politiques divers et variés qui disent « Oh là là, attention, comment faire? Qu'allons-nous faire de tous ces réfugiés, qu'ils soient d'ailleurs exilés politiques ou pas? On confond migration et droit d'asile aussi également. »
Ça ne veut pas dire que le système de l'asile fonctionne. Personnellement, je pense qu'il fonctionne pas du tout en France. Et que le projet de loi en cours de discussion n'y portera certainement pas un remède suffisant. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que la politique de l'asile fonctionne bien. Mais enfin, ça veut dire qu'on ne peut pas l'appréhender à partir des idées fausses, et en tout cas en utilisant le flux asilaire pour nourrir des fantasmes de grands remplacements qui me paraissent tout à fait malvenus.
Allez, nous y revenons avec vous dans un instant. Sur le Yémen, Laurent Bonnefoy, comment démêler toutes ces questions, évidemment, qui sont complexes, mais encore une fois, d'ailleurs, comment vous pourriez nous présenter ce pays dont on a un peu oublié qu'il a fait justement partie au départ des quatre pays où le fameux printemps arabe avait débouché sur le départ du dirigeant Laurent Bonnefoy?
Alors c'est un pays qui en effet est complexe, qui est traversé de nombreuses spécificités. L'une des spécificités qui a une implication directe aujourd'hui, c'est la présence d'une minorité chiite, mais d'une branche du chiisme qui est spécifique, qu'on appelle le zaïdisme, et qui se distingue donc du chiisme duodécimain qui est dominant en Iran, en Irak, présent au Liban. Et cette spécificité du zaïdisme, c'est que c'est, on pourrait dire, un demi-chiisme, c'est-à-dire que le pays avait été traversé pendant plusieurs décennies, et du fait de l'action de l'État, par un processus de convergence religieuse qui amenait finalement un certain nombre de zaïdites, dont l'ancien président Ali Abdallah Saleh, à avoir abandonné la dimension chiite pour mettre en avant une identité musulmane plus large. Et il se trouve que ce processus de convergence, dans le conflit qui apparaît aujourd'hui, a été d'une certaine manière sapé. Il a disparu et aujourd'hui on est dans une situation de polarisation confessionnelle assez similaire à celle qu'on trouve ailleurs. Et ce processus-là est bien évidemment très, très inquiétant.
Est-ce que ces problèmes-là et ces questions-là datent du moment de l'unification, enfin la réunification des deux Yémen, le moment en 90?
Alors l'unification a été un ferment de polarisation parce que elle a produit une domination du nord sur le sud. Et l'unification a été faite de façon incomplète et on a vu émerger au sud, ou plutôt réémerger depuis 2007, un profond mouvement sécessionniste qui est extrêmement populaire et qui aujourd'hui, par le truchement aussi de l'intervention saoudienne, qui a fondé une coalition sunnite et qui ne s'en cache pas, on a eu donc une polarisation qui se double donc de la polarisation nord-sud, mais qui s'incarne aussi autour de la polarisation confessionnelle.
Alors, est-ce qu'on est donc dans un conflit que l'on dit religieux avec cette guerre chiite-sunnite, ou est-ce qu'on est dans un conflit où la question religieuse est un prétexte et où il y a davantage d'enjeux géopolitiques, peut-être liés bien sûr aux questions religieuses, mais pas seulement, entre le pôle iranien, on va dire, et le pôle saoudien?
Alors cette question de l'intégration de la variable confessionnelle ou religieuse est toujours difficile. Elle est difficile parce que toute évidence.
Est-ce qu'elle est une cause ou est-ce qu'elle est un prétexte?
Elle est très largement un prétexte, mais progressivement elle devient aussi une cause. C'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes, ceux qui combattent, les miliciens deviennent eux-mêmes convaincus de la pertinence de cette grille de lecture. Les Saoudiens eux-mêmes, quand bien même ils ont des logiques géopolitiques qui les amènent à entrer en concurrence avec l'Iran, mais sont persuadés qu'il y a des fondements aussi religieux. Et c'est tout le processus qu'on a vu se développer en Irak et en Syrie fait que finalement la prise en compte de cette variable en tant que chercheur spécialiste de sociologie, de sciences politiques, on a envie de la mettre de côté, de dire qu'elle est simplement instrumentalisée. Mais dans les faits, elle devient aussi structurelle, je dirais.
Alors en quoi consiste et comment a été menée et s'est décidée la fameuse coalition? Beaucoup de pays, 10 pays participent aujourd'hui à la coalition pour l'opération Tempête décisive, Laurent Bonnefoy.
Il faudrait s'interroger aussi sur le ridicule de cette sémantique quand même. Ça fait 20 ans qu'on subit ouragan fatal, tempête décisive, joie guerrière, trahir Rangers paradisiaque, enfin tout ça est quand même absolument ridicule. Et ce ridicule dit, à mon avis, quelque chose de l'échec prévisible de ces opérations. Mais je m'avance là sur un terrain qui n'est pas le mien.
Alors, tempête décisive, Laurent.
Bien évidemment, on voit la référence à Tempête du désert des années 90. Alors, cette opération a été menée par l'armée saoudienne qui a cherché à constituer une coalition large de pays sunnites. Il se trouve qu'elle a de l'avis de tout le monde.
Qui a reçu le soutien des États-Unis tout de même.
Et qui reçoit le soutien des États-Unis. Mais c'est de tout à fait étonnant. Mais ça signale aussi, je dirais, la peur panique de l'ensemble des pays de la région et aussi de l'Occident, pour parler avec un raccourci, face à la situation au Yémen. L'ensemble des grandes puissances est perdu et ne sait plus comment agir. Et si bien qu'ils s'en remettent à finalement une opération qui a été mal préparée, puisque depuis, ça fait 3 semaines maintenant que ça a commencé, en dehors des destructions civiles, des destructions d'infrastructures, je veux dire, les opérations n'ont pas permis un avantage, n'ont pas permis de repousser les Houthis, bien au contraire, la rébellion jouit aujourd'hui d'un soutien populaire important.
François Sureau,
est-ce que je peux vous poser une question que j'imagine tout le monde se pose ? On parle de l'armée saoudienne, mais est-ce que ça existe ? Parce que pour un type qui, comme moi, lit simplement le journal, l'Arabie saoudite, en dehors du fait d'être un allié effarant de l'Occident et le pourrisseur d'une large partie de la conscience du monde arabe, c'est quand même des gars qui sont plutôt habitués à faire travailler les Philippins à leur place. Donc c'est quoi l'armée saoudienne ?
Alors c'est bien toute la difficulté. Je veux dire, faut pas non plus faire injure à cette société, qui est une vraie société où il y a des groupes sociaux, des classes.
Pas l'injure aux Saoudiens, s'il vous plaît, François.
Et des gens, c'est absolument pas la question, mais on a une réalité tout de même. On a 25 millions de personnes, des gens qui travaillent, des gens qui sont engagés dans l'armée.
Ce que je veux, c'est que depuis Ibn Seyoud, ils ont quand même jamais levé leur cimeterre contre quelqu'un. Donc, si ? Enfin, ils sont efficaces sur le terrain, ces gars-là ?
C'est toute la question. Je veux dire, pour ce qui est des bombardements, manifestement, les analystes militaires expliquent que ils ont besoin, pour des raisons techniques et d'expérience, de l'appui des États-Unis, que les États-Unis fournissent. Et puis après, il y a la question de l'intervention au sol, qui est le gros enjeu aujourd'hui. Personne ne veut intervenir au Yémen pour des raisons historiques. Les Égyptiens ne veulent pas puisqu'ils sont intervenus dans les années 60 et ont gardé un mauvais souvenir. Les Turcs, les Ottomans étaient intervenus, ils avaient été expulsés au début du 20e siècle. Donc il y a cet héritage-là. Et les Saoudiens comptaient sur la coalition qui a été construite à coup de pétrodollars, faut être clair. Mais ils comptaient sur les Turcs, ils comptaient sur les Pakistanais aussi pour intervenir. Et les deux pays ont refusé et maintenant il reste les Égyptiens.
Mais pour bien comprendre, quel était l'objet, le but de la rébellion houthiste, chiite, Laurent Bonnefoy. Quelle était leur demande, pourquoi cette rébellion au départ ?
Alors, la rébellion, elle s'est construite autour d'un sentiment de marginalisation des chiites zaïdites. Il y a eu tout un mouvement qui a émergé dans les années 80-90 de renouveau de l'identité, qui s'opposait d'une certaine manière au processus de convergence que j'ai expliqué au préalable. Et face à cette volonté de reconstruire une identité, est venu se greffer un sentiment de solidarité face à une répression que l'État a menée dans le contexte d'une guerre de 2004 à 2010. Et la rébellion aussi s'est progressivement constituée en mouvement politique qui a progressivement gagné du terrain et l'appétit venant en mangeant a pris ses aises d'une certaine manière jusqu'à souhaiter finalement prendre le contrôle de l'État.
C'est renverser donc, renverser quoi, l'équilibre des pouvoirs, pourrait-on dire comme ça.
Oui, surtout mettre la pression sur le pouvoir de transition qui est né suite à la chute du président Hadi. Et cette mise sous pression de la transition s'est faite par une alliance étonnante entre l'ancien président qui avait été déposé, l'ancien président qui avait lutter contre les Houthis et ces Houthis.
Alors, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut voir l'action de l'Arabie saoudite et de la coalition et de ses soutiens comme quelque chose qui, en filigrane, finalement, rejoint le grand débat du moment concernant la question de l'Iran, de qui sait l'abandon un jour ou l'autre des sanctions américaines en vue de l'accord qu'il y a sur un programme nucléaire et dans l'idée que, justement, aujourd'hui, l'Arabie saoudite voit d'un très mauvais œil qu'éventuellement, il y ait un retournement ou un petit retournement, un début de retournement de la conscience ou de l'opinion mondiale sur la question des Iraniens que l'on tenterait de voir d'un œil plus favorable qu'on ne l'a vu auparavant. Et d'ailleurs, les Iraniens ne s'y trompent pas, puisqu'ils disent, attention, en luttant contre les chiites du Yémen, vous allez encore une fois de plus laisser la place à un sunnisme radical et faire naître de nouveau, qui sait, Ben Laden. L'Iran a toujours dit, au fond, pourquoi vous n'êtes pas plus de notre côté et êtes-vous plutôt du leur, puisque tous les malheurs du monde qui vous arrivent, c'est pas nous, c'est eux. Laurent Bonnefoy.
Clé de lecture géopolitique politique et des motivations saoudiennes face à la politique iranienne est évidemment pertinente. Elle n'épuise pas, bien évidemment, tous les ressorts du conflit, mais un certain nombre d'analystes ont pu comprendre finalement l'intervention saoudienne comme un moyen aussi de torpiller l'accord nucléaire, parce que de fait la balle maintenant est dans le camp des Iraniens. Manifestement, ils ont décidé de ne pas réagir de façon frontale jusqu'à présent. On a même tendance à penser qu'ils sont en train de lâcher la rébellion Houthi. Mais toujours est-il que si l'accord sur le nucléaire n'avait pas ou n'aboutit pas, bien évidemment, avec ce conflit-là, les Iraniens ont une cartouche, je dirais.
Et sans vous faire jouer les Madame Soleil, pardon, mais comment ce conflit peut-il se terminer ? On en est loin ?
On en est loin et malheureusement, considérant toutes les implications locales sur les populations civiles, parce qu'il faut pas oublier...
100 000 réfugiés. Hein, 100, mais pour plus le moment, 000, et puis, presque 130 000 réfugiés depuis
le début. Ces chiffres-là sont très difficiles. Il se trouve que le Yémen est une société rurale, donc beaucoup de gens sont retournés dans leur village pour le moment. Mais dans le village, il y a des problèmes économiques évidents. Il y a un flux vraisemblablement qui va naître vers l'étranger. Je pense que c'est important de parler aussi de ces questions de droit d'asile. Même si le Yémen étant plus périphérique et les voies d'accès sont évidemment plus difficiles puisqu'il faut passer par la mer que par exemple le cas syrien, mais quand on voit la politique de la France qui a été menée sur les réfugiés syriens, c'est tout de même assez déplorable de voir le peu d'engagement et la stratégie comptable qu'on met en place, ce qu'on a pu lire avec le rapport, où on considère que finalement 2 milliards pour ça c'est bien trop, et par contre une intervention militaire qui va se chiffrer en milliards aussi, c'est jamais trop.
Et l'abandon, notamment entre autres, du projet européen Mare Nostrum. Je vous signale d'ailleurs le numéro de La Croix d'aujourd'hui, jeudi 16 avril, avec un éditorial de Jean-Christophe Ploquin. La Croix consacrée au destin de migrants. Et puis, cette conclusion de Jean-Christophe Ploquin qui sera le sujet de notre deuxième partie. Hein. L'Europe n'est pas à la hauteur du défi humanitaire qui se pose sur ces questions de droit d'asile ou de migrants. Deuxième partie que vous introduirez, bien sûr, Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, vous avez vu que la commission des lois du Sénat a demandé hier le report de l'examen de la réforme du droit d'asile présentée par le ministre Bernard Cazeneuve. On a assisté à une belle empoignade toute la gauche contre toute la droite. Alors la question que j'aimerais poser à François Sureau, notre invité, c'est: est-ce qu'il n'est pas regrettable que le droit d'asile soit ainsi instrumentalisé par les politiques ? Pouvez-vous nous proposer, vous qui êtes juriste et philosophe et moraliste, des principes généraux dans lesquels tout le monde pourrait se retrouver de la droite à la gauche ?
Redites-moi ça, il est quoi, juriste, philosophe et moraliste ?
Et vous avez une réponse maintenant ?
Non, je l'ai vu dans un quart d'heure.
Vous
avez un quart d'heure pour réfléchir.
Je rappelle, François Sureau, que vous aviez publié Le chemin des morts, qui était une sorte de chemin du remords.
Oui, non, pas vraiment. Non, c'est un petit livre qui raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'étais juge de l'asile, ça s'est mal terminé, mais qui est essentiellement centré sur la difficulté de décider en pareil cas, ce qui maintenant me trouble à chaque fois que j'entends, Brice Couturier, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en réalité, le débat sur l'asile est l'otage à la fois de la droite et de la gauche, il est en permanence depuis 20 ans, et il en résulte des misères humaines absolument effroyables dont personne ne se sent comptable, alors qu'on se sent comptable de l'argent.
Nous y revenons avec vous, François Sureau, bien sûr, dans un quart d'heure.